ressusciter des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Et je vous demande de bien écouter ces quelques versets qui suivent. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce que je peux demander votre aide, juste au début, et je vous assure, il n'y a pas de piège, hein. Juste au début de cette méditation, est-ce que je peux vous poser une question et avoir un petit peu votre aide là-dessus? Quel est le verset que vous avez l'habitude de connaître par cœur, que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous aimez le plus dans ce paragraphe? Lequel? J'entends pas. Ah, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien, impeccable. Ça fait longtemps que j'avais envie de partager avec vous cette promesse que j'ai toujours considérée comme une promesse dans la parole de Dieu. C'est pas du passé. Je le considère toujours. Et même pendant la préparation de cette méditation, encore plus qu'avant. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Depuis des mois, ça tournait dans ma tête. Et avant de commencer la préparation de cette méditation, j'étais dans une librairie chrétienne. Je me suis dit, ça, c'est une bonne promesse de Dieu. Et je vais regarder un livre sur les promesses de Dieu. Parfois, j'utilise les promesses de Dieu pour apporter des méditations. Je me suis dit, regardons qu'est-ce qu'il dit ce livre, si je trouve, sur la fidélité de Dieu. J'en trouve un grand. Je le prends, j'ouvre la fidélité de Dieu. Il n'y est pas. Je ne le trouve pas. Je rentre chez moi à la maison. J'ai la même chose, mais en format électronique, un autre livre qui parle des promesses de Dieu. Je regarde sur fidélité, je ne le trouve pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce verset, je l'ai bien compris? Est-ce que ce verset, on le comprend bien? L'habitude, c'est que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, d'aller directement dans l'encyclopédie biblique des difficultés de la Bible, d'Alfred Kuhn. Il en a 6 ou 7 volumes énormes, et il traite de la plupart des difficultés bibliques ou de certaines incompréhensions que on peut être amené à les trouver dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et j'ai ouvert en 2 Timothée rapidement, chapitre 2, verset 8 au verset 13, pour essayer de voir plus clair. Et là, à mon grand étonnement, vous n'imaginez pas tous les articles que j'ai pu voir là-dessus. Et en fait, il y en a 2 théories. Il y en a 2 visions. La première voit la fidélité de Dieu comme étant une promesse négative, on va voir pourquoi, et une autre comme une promesse positive. Je vous rassure qu'aujourd'hui, si je vous la porte, c'est parce que après l'avoir approfondi, non seulement je continue à croire que c'est une promesse positive qui est là pour nous encourager, mais j'ai en plus découvert des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus profondes que la première vision que j'avais de ce verset comme étant simplement une assurance pour moi du salut. Elle l'est, mais il y a encore beaucoup plus profond que ça. Alors, avant d'arriver à partager avec vous tout ce que j'ai pu, tout ce que le Seigneur m'a apporté par cette étude, je vous demande donc de patienter, comme d'habitude, avec moi, et de prendre le cheminement petit à petit pour comprendre ensemble pourquoi certaines personnes ne le voient pas comme une promesse positive. Et pourquoi nous, on peut le considérer comme une promesse positive, non seulement en tant qu'assurance pour mon salut, mais bien plus que ça, bien plus profond que ça, ce verset veut dire. Alors, il est... Matthieu... Ça passe plus. Une seconde. Ah, voilà. Alors, quand on regarde les commentaires et les exégètes bibliques sur ce verset, sur ces versets, ils sont tous d'accord qu'ils disent, de dire que c'est divisé en deux parties. Parfois, ils disent c'est un hymne, c'est un chant que l'apôtre Paul a utilisé pour apporter un enseignement à Timothée. C'est divisé en deux parties qui sont parallèles. Deux versets, ou deux phrases qui sont parallèles. Les deux premiers, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Appelons ça une promesse positive. Et puis après, en parallèle à cela, deux autres phrases qui disent Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Alors, le premier groupe des exégètes bibliques est à leur tête, vous trouvez John Stott, que tous vous connaissez bien. Il a écrit sur le Saint-Esprit. Il a écrit pas mal sur les lettres de Jean, des commentaires bibliques sur les lettres de Jean, bien connus, John Stott. Lui, il dit la chose suivante. La première partie, elle est positive. Il y a une deuxième partie qui est parallèle à la première partie. Une phrase a une promesse négative. Le mot infidèle, un peu négatif, il est là-dedans. Donc, toute la deuxième partie doit être considérée comme une promesse négative pour rester en parallèle avec la première et rester logique avec la forme de l'hymne chrétien. Donc, le Seigneur demeure fidèle. À quoi ? Il demeure, si on est infidèle, le Seigneur demeure fidèle à sa promesse de punir, de renier, de rejeter ceux qui sont infidèles. Et comme lui, il ne peut pas renier ce qu'il dit, ses sentences, c'est pour cela qu'il le fera quand même. Donc, si on le renie, si on est infidèle, lui, il est fidèle à ce qu'il est, il nous reniera, il nous rejettera. C'est comme ça que pas mal d'exégètes le comprennent, y compris John Stott. Mais il y en a d'autres qui réfléchissent autrement et disent « Non, ce n'est pas possible de réfléchir comme ça. » L'apôtre Paul voulait faire une cassure avec ce qu'il venait de dire. C'est pour cela qu'il ne dit pas « il est infidèle » ou « il nous reniera », mais il va développer autrement. Et pour eux, la fidélité de l'homme envers Dieu n'est pas du tout à la mesure de la fidélité de Dieu. Il n'y a pas aucune comparaison. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul ajoute cette phrase, il ne peut se renier lui-même, pour que cette cassure dans l'hymne soit acceptée. Et pourquoi il y en a une? Alors bien sûr, ce n'est pas du tout suffisant ce que je suis en train de dire. Et je ne suis pas là pour vous donner juste cette petite phrase. Si vous regardez tous les commentaires bibliques qui sont là-dessus, on va comprendre que c'est beaucoup plus profond que moi. Et c'est ce que je souhaite de comprendre avec vous et de vous amener à comprendre sur la vraie signification de cette phrase. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Je vais commencer par vous dire pourquoi il est théologiquement correct de croire à la deuxième interprétation. En d'autres termes, c'est une interprétation positive. Si nous, on est infidèles, lui, il demeure fidèle à son amour envers nous et à sa promesse envers nous. Comme je vous l'ai dit, le but n'est pas du tout de faire une petite théologie, mais juste que vous puissiez comprendre quelle est la profondeur de cette phrase. Et quand on va la traiter, vous allez vous rendre compte que ça ne s'arrête pas à une juste assurance du salut. Mais cette phrase implique des promesses beaucoup plus profondes qu'une simple assurance du salut. Et on va le découvrir ensemble. Alors revenons sur les deux premières lignes. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Ces deux phrases ne pose aucun problème pour les exégètes. Ils sont tous d'accord. Déjà, pour la première de dire, si nous sommes morts avec lui, ça ne sous-entend pas si nous souffrons le martyr, si nous sommes martyrisés, si on nous a persécutés. Ça sous-entend notre mort avec Christ par le baptême, par la conversion à lui, par l'acceptation de son œuvre, de sa mort de lui. Et si nous sommes morts avec lui dans le sang, nous acceptons son œuvre avec lui, sa grâce pour nous, son sacrifice, ainsi de suite, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Bien sûr, l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, chapitre 20, verset 4, 22, verset 5, on parle beaucoup du règne des saints avec Christ à la fin des temps, quand il va revenir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Poursuivons notre réflexion et allons-y à la troisième ligne. La troisième ligne commence par dire, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et là aussi, souvent, il faut comprendre pourquoi... on a comme arrière-plan, ce que John Stott pense et beaucoup pensent de ce verset, Matthieu chapitre 10, verset 32-33, qui dit la chose suivante. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est un petit peu, il y a un parallèle comme arrière-plan, ce que Christ a dit et que nous est rapporté par Matthieu. Si vous me confessez, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et pour bien comprendre ce que Christ voulait dire par ce mot et ce que l'apôtre Paul voulait dire ce mot, c'est important de bien le comprendre. Ouvrons le dictionnaire et regardons que veut dire le mot « renier ». Le dictionnaire dit, j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai regardé et j'ai trouvé. « Renier », c'est déclarer qu'on ne croit plus en Dieu. J'étais étonné de savoir qu'au XXIe siècle, un dictionnaire, quand il veut expliquer un mot, la première signification qu'il donne, c'est relative à la religion, dans un monde qui n'est plus religieux. Et c'est ce qu'il dit, le dictionnaire, la première définition. Donc la première signification de ce mot, renier, c'est déclarer qu'on ne croit plus en Dieu. Et après il dit, renier, c'est ne plus reconnaître quelqu'un, quelque chose, pour ce qu'ils sont. C'est considérer qu'on n'a plus aucun lien avec eux. Comme par exemple, il donne le dictionnaire dans l'exemple, renier sa famille. Et en troisième, il donne ne plus reconnaître quelque chose comme sien. Exemple, renier ses engagements. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, dans ce mot renier, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le mot renier veut dire ne pas croire en Dieu ou ne plus croire en lui, premièrement, ou bien renier un engagement qu'on a eu au départ. Tiens, je ne me reconnais plus de cette famille, ce n'est plus ma famille, je n'ai plus rien à voir. Comme si je dis je ne suis plus chrétien, je ne veux plus rien avoir avec ceux qui se disent chrétiens. Je ne me reconnais plus comme eux. Je ne reconnais plus mon premier engagement. Donc, soit ne pas croire dès le début, soit complètement renier mes propres engagements avec lui. Donc, renier Christ dans le sens fort et non dans le sens de Pierre. On dit souvent que Pierre a renié Christ. Mais Pierre, il a renié par la peur, ça a duré quelques minutes et il a pleuré amèrement. Donc, ce n'est pas le même sens, le reniement de Pierre, qui a pleuré amèrement et regretté, du sens qu'il est ici donné, renier définitivement un engagement, ne pas croire en Dieu, ce qui n'est pas le cas de Pierre, ne mélangeons pas. Par la peur, ce n'est plus croire en lui, ne plus reconnaître son œuvre. Dans ce cas, être renié par Christ signifie être exclu de la vie éternelle. Là, on a bien compris. C'est clair, il n'y a pas encore de difficulté. Mais c'est utile pour après. Et passons maintenant à la quatrième phrase, quatrième ligne, qui, elle, pose le problème. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et là, je demande bien votre attention, parce que c'est là où on va commencer à savoir pourquoi il y a ces deux différences et pourquoi il faut en choisir une et pas l'autre. Posons-nous la question, mais que veut dire être infidèle? Être infidèle, quand la Bible traduit, déjà entre parenthèses, si vous regardez Darby, Darby ne traduit pas par être infidèle. Darby dit, traduit par être incrédule. Il ne dit pas infidèle, il dit incrédule, Darby. Être infidèle a deux significations. La première, c'est ne pas croire, dans le sens de ne pas avoir placé sa foi en Jésus-Christ. Je vous ai donné quelques versets là, où le traducteur, quelle que soit la traduction, pas uniquement lui second, que j'utilise souvent, même les autres, n'utilise pas le mot infidèle. Pourtant, c'est le même mot. Et on aurait dû traduire par infidèle. Ils vont utiliser un autre mot. Prenons l'exemple de Romains chapitre 3, verset 3. Paul parle aux Juifs. Il leur dit, si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Là, il n'a pas dit leur infidélité. Le traducteur, la traduction ne dit pas leur infidélité. Elle dit leur incrédulité anéantira-t-elle, dans le sens que leur non-croyance en Christ. Mais ni second ni les autres n'ont traduit pas leur infidélité. Romains chapitre 11, verset 20. Paul dit la même chose. Toi retranché pour incrédulité. Il n'a pas dit retranché pour infidélité ou non-fidélité. Et après, chapitre 11, verset 23, « S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés de nouveau. » ne, pas s'ils ne persistent pas dans leur infidélité, dans leur incrédulité. En fait, pour résumer un petit peu, c'est le même mot. Moi, parfois, pour essayer de comprendre la signification, je reprends la Bible en arabe. Ce n'est pas parce qu'elle est mieux, c'est parce que le mot reste tel qu'il est. Et on ne le change pas. Et c'est de la manière dont on le lit, de son contexte, qu'on peut comprendre si ce mot veut dire telle chose ou telle chose. Telle chose ou telle chose. Donc, ne pas croire dans le sens ne pas placer sa foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il peut dire ce mot infidélité. Donc, vous comprenez bien pourquoi des gens comme John Stott et comme d'autres exégètes peuvent comprendre, pour conserver le parallèle entre les deux paragraphes qu'on est en train de dire, le mot infidélité comme incrédulité, comme non-croyance en Dieu. Mais ce mot veut dire aussi autre chose. Ce mot peut dire être sans foi, traduit littéralement, mais pas dans le sens ne pas avoir une foi, croire en Dieu, mais dans le sens où certains chrétiens n'ont pas la foi qu'ils devraient avoir. Je vous donne uniquement deux exemples très parlants. Le premier en Luc chapitre 24, verset 41. Jésus-Christ, juste après avoir fait le chemin d'Emmaüs avec deux des disciples, il apparaît aux autres disciples qui étaient au bord de la mer après avoir péché. Et ils ont eu peur parce qu'ils ont cru que c'était un esprit. Il leur dit, je ne suis pas un esprit. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Regardez, je peux m'asseoir avec vous, parler avec vous. Et verset 41 qui dit, comme ils ne croyaient pas encore, il n'a pas dit comme ils étaient infidèles ou ils étaient incrédules, il essaie de dire comme ils ne croyaient pas encore ou quand ils manquaient de foi encore, Jésus leur dit pour leur démontrer qu'un esprit mange, qu'il n'est pas esprit, un esprit ne mange pas, il leur dit, avez-vous à manger pour qu'ils croient. Mais le plus parlant, c'est Marc chapitre 9. Tout chapitre 9 et pas uniquement le verset 24. Et c'est là où on va vraiment comprendre que veut dire ce mot dans cette phrase. Jésus-Christ, après la transfiguration, après avoir pris les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, il redescend. Et qu'est-ce qu'il trouve en bas? Il trouve les disciples en grande discussion avec les pharisiens, le peuple, les scribes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y en a un qui leur a apporté à ses disciples un jeune homme où il était possédé par un esprit muet. Et chaque fois que l'esprit se saisit de lui, il serait dit, il tombe par terre, il écume. Et ce père a demandé aux disciples de le sauver, de chasser l'esprit, et ils ne sont pas arrivés. Au verset 19, Jésus va leur dire, race incrédule, il parle à ses disciples, race incrédule, jusqu'à quand je vais rester avec lui? On aurait pu dire infidèle ou sans foi, jusqu'à quand? Race incrédule. Bien sûr, on ne va pas comprendre que Jésus dit à ses disciples qu'ils ne croient pas en lui. C'est un manque de foi. Et le Père, il appelle le Père, et il dit au Père, qu'est-ce que tu veux? Le Père lui dit, « Seigneur, si tu peux, guéris-le, si tu peux. » Il lui dit, « À ceux qui ont la foi, on peut. » Et là, il va lui dire une phrase, le Père, qui est très importante. Il va lui dire, « Je crois, viens en aide à mon manque de foi. » Second traduit, « Je crois, viens à mon aide avec mon manque de crédulité ou mon incrédulité. Je crois, j'ai la foi, viens au secours de mon manque de foi ou de mon incrédulité. » Ça ne colle pas, c'est le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il croit, mais que sa foi n'est pas assez solide, assez forte, pour dire, oui, c'est fini, je crois. Il croit en Christ et il lui dit, viens, aide-moi à croire. Viens, viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de foi. Viens au secours. Donc, C'est, on peut le comprendre dans le sens, ce même mot, de ne pas croire en Dieu complètement, ou bien croire en Dieu, mais on est encore jeune dans la foi. Notre foi n'est pas affermie, n'est pas grande, comme celle des disciples, comme celle de cette personne. On n'a pas encore arrivé à une croissance spirituelle qui nous permet d'avoir une foi forte, une foi complète. En d'autres termes, c'est comme Pierre qui, il a chuté, il a failli un peu par la peur. On peut trébucher par ce manque de foi dans le sens faible, pas dans le sens fort de renier. Alors, que choisir entre les deux? Choisir le premier, sens fort, ou choisir le deuxième, sens faible, un petit manque de foi, sans être incrédule, tel qu'on vient de le lire en Romains. Lequel choisir? Eh bien, la phrase qui va nous aider à comprendre et à être sûr et à nous donner les vraies promesses qu'il y a dans cette phrase, c'est « Il demeure fidèle ». C'est ce mot, c'est cette phrase qui va nous aider à choisir. Alors, vous savez, on a l'habitude, quand on fait exégète de la Bible, de parler de l'analogie de la foi. En d'autres termes, on ne peut pas prendre un texte à lui seul et en faire une théorie. On doit regarder, déjà, dans le contexte de la lettre, dans le contexte de celui qui écrit et dans le contexte du message biblique en entier. Or, qui nous écrit? C'est l'apôtre Paul. Très bien. Alors, l'apôtre Paul, quand il utilise ce mot, qu'est-ce qu'il sous-entend? Quand l'apôtre Paul dit « Dieu est fidèle », qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Est-ce que dans la Bible, dans ses lettres, on trouve des choses beaucoup plus simples? Pour la comprendre, cette phrase, eh bien oui, parce que à part cet endroit, il va l'utiliser le même mot 5 autres fois. Et je vous demande de bien regarder de quelle manière il les utilise. En 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, un petit peu avant, vous connaissez les Corinthiens, hein? C'est pas l'église idéale, vous êtes d'accord? Hein? Oui? Elle est idéale? Non. Avec tout ce qu'il y avait comme problème et comme chose mauvaise, c'était pas du tout évident. Oh, regardez ce que l'apôtre Paul va leur écrire. Au début, chapitre 1, verset 6, 7, 8, un petit peu, il va leur dire qu'il remercie Dieu de tous les dons qu'ils ont eus. De la sagesse, de tout, d'ainsi de suite. Et il dit, il va prier pour, et il dit, Dieu va les affermir jusqu'à la fin pour qu'ils soient, pour qu'ils deviennent irréprochables pour le jour où il va venir. Il va finir ça au verset 8. Pour les Corinthiens, avec tout ce qu'ils sont, c'est ce qu'il va dire d'eux. Quand on lit ce qu'ils font après, on dit, mais comment Paul a pu dire ça d'eux? Dieu va les affermir jusqu'à devenir irréprochables. Il était conscient. Mais au verset 9, il va leur dire, Dieu est fidèle, celui qui vous a appelé. Comme gage de cette prière que les Corinthiens vont être transformés, vont être changés, Dieu va les affermir comme gage, Dieu est fidèle. C'était ça son gage pour eux. Ce n'était pas qu'il soit uniquement convaincu parce qu'il va écrire. Dieu est fidèle. Allons un peu plus loin, toujours en Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Verset 12, il va dire, après avoir parlé de toutes les mauvaises choses qui sont chez eux, il va dire une phrase, verset 12, « Que celui qui est debout prenne garde de tomber. » C'est grave. Mais verset 13, ça nous fait peur, non? Si je ne prêche que sur ce verset, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Hein? Mais au verset 13, il va leur dire, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et il va leur dire, avec la tentation, il préparera le chemin de s'en sortir. Et c'est déjà une chose que je veux qu'on comprenne ce matin. Ce n'est pas uniquement une assurance du salut, la fidélité de Dieu. Pas tout simplement une assurance. Dieu est fidèle que même quand on est dans l'épreuve, dans la tentation, où on peut chuter, il ne va pas nous laisser. C'est là la fidélité de Dieu. En même temps de l'épreuve, il va, et de la tentation, c'est encore de grec, on peut traduire tentation au grec, tentation ou épreuve comme on veut, avec l'épreuve ou avec la tentation, il va préparer le chemin pour qu'on ne tombe pas. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas. Vous voyez cette dimension plus profonde que la première, qu'on a l'habitude d'utiliser comme une simple assurance du salut. Elle est plus profonde, cette promesse. Dieu est fidèle. Et pas que là, en Thessaloniciens, il va dire la même chose. Quand il va leur dire que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles au jour de son avènement, qu'est-ce qu'il va donner comme gage que Dieu va les conserver? Celui qui vous a appelé est fidèle. Et je ne veux pas m'attarder, 2 Corinthiens 1, 10, Thessaloniciens 3, 3, donc il n'y en a pas que ce que je viens de dire. Et chaque fois que Paul utilise le mot « Dieu est fidèle », il l'utilise dans un sens positif, comme une assurance, comme quelque chose qui affermit les chrétiens pour les amener à être vainqueurs. Chaque fois que Paul utilise ce terme « Dieu est fidèle », jamais autrement. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Hébreux chapitre 10, verset 23, on va trouver ce même mot. Et il va dire la même chose, une promesse positive. 10, 23, 11, 11. 1 Pierre, Pierre aussi, chapitre 4, verset 19. Dieu est fidèle, toujours dans le sens positif, qui vont rester debout. 1 Jean 1, 9, la fidélité de Dieu, on va le voir juste à la fin comme conclusion. Et je n'ai pas besoin de revenir dans l'Ancien Testament. Parler de tous les psaumes quand ils disent « Louez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité durera toujours. » C'est toujours une promesse positive. Quand Dieu, quand Paul, quand les apôtres, quand la Bible utilise le terme « Dieu est fidèle ». On n'a plus le temps, je vais passer tout ceci. J'ai déjà enlevé pas mal de choses, mais on va passer aussi. Donc, au regard de tout ce qu'on vient de dire, il semble raisonnable d'interpréter 2 Timothée 2,13 dans le sens d'une promesse positive. En d'autres termes, revenir, passons à la conclusion, qu'est-ce qu'il a voulu dire l'apôtre Paul à Timothée? Rappelez-vous, il le dit à Timothée et après, il lui dit « cette parole est certaine » et après, il va lui dire « d'enseigner ». Donc, cette parole n'est pas que pour Timothée, d'accord? Elle est aussi pour nous, puisque Timothée va l'enseigner. Donc, ces 4 phrases peuvent être interprétées de la manière suivante. Une déclaration réassurant les chrétiens que lorsqu'ils sont morts, j'arrive pas à voir de loin, que lorsqu'ils sont morts avec le Christ lors de leur conversion, ils sont passés de la mort à la vie. Un jour, ils vivront éternellement avec Christ. C'est une affirmation qui le rappelle à Timothée et qui va lui dire de le rappeler aux chrétiens dans son église. Et après, une promesse de la persévérance dans les tribulations à cause du Christ les fera un jour partager son règne. Il faut qu'ils soient conscients de cela, les chrétiens. Que les tribulations d'aujourd'hui vont après leur faire parvenir un règne. Puis après, un avertissement qui est solennel. qui rappelle les paroles de Jésus qu'on vient de lire. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Répudier sa foi dans le sens de renier tel qu'on l'a vu, pas dans le sens de tomber, comme Pierre. D'accord ? Dans le sens fort, ne pas croire en Dieu, ne plus voir Dieu, renier ses engagements, je n'ai plus rien à voir avec les chrétiens, je n'y crois pas, je ne veux pas, ainsi de suite. Là, il nous reniera. Mais, Paul finit par une phase beaucoup plus longue que la première avec une explication où il va dire, car il ne peut se renier lui-même. Il veut affirmer quelque chose de beaucoup plus profond. Il va donner une parole de réconfort à Timothée pour que lui-même, il réconforte les chrétiens. Qui de nous peut dire aujourd'hui, je suis un chrétien parfait ? Qui ? Aucun. Qui de nous peut dire aujourd'hui, je ne tombe jamais, je ne pèse jamais, je n'ai même plus besoin de me confesser à Dieu ? Qui de nous ? Et Paul est conscient de ceci. Paul est conscient de ce que sont les chrétiens, de leur nature humaine. Et il va dire à Timothée d'enseigner, de donner une parole de réconfort pour rassurer les chrétiens. Ployant sous le fardeau de leur faute, de leur manquement, la fidélité de Dieu n'est pas dépendante du degré de notre fidélité. Il demeurera fidèle aux promesses de son alliance, car il l'a juré et lui ne peut pas renier son engagement, ses promesses, ce qu'il est. La fidélité de Dieu, c'est ce qu'il a voulu dire l'apôtre Paul, c'est pour cela qu'il allonge sa phrase, ne dépend pas de notre fidélité. Elle ne dépend pas de notre fidélité. Lui, il ne peut renier lui soi-même. Il restera fidèle à son amour pour nous, à ses engagements pour nous. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Oui, frères et sœurs. Aussi, l'apôtre Jean nous dit la même chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse biblique. Beaucoup d'entre nous qui peut-être cette année écoulée 2017 se sont écroulés sous des fardeaux. Peut-être ils sont tombés, peut-être ils se sont sentis infidèles. Mais sachez que si on est infidèle, Dieu est fidèle. Et cette année 2018 qui va arriver, je vous assure que personne à la fin ne va dire « J'étais parfait en 2018 ». Beaucoup d'entre nous vont avoir du regret, comme l'apôtre Pierre qui a pleuré. Beaucoup d'entre nous vont avoir du regret. Mais sachez deux choses. La première, la fidélité de Dieu ne dépendra pas de notre fidélité. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et pour nous purifier de toute iniquité. Mais surtout, comme on vient de le voir en Corinthiens, Dieu est fidèle et dans l'épreuve, il préparera le chemin pour s'en sortir. Donc quand on s'écroule sous l'épreuve, sous la tentation, pensons à cette promesse de la fidélité de Dieu, pas uniquement je suis rassuré, si je tombe, il me pardonne. Non, la fidélité de Dieu va au-delà de ça. Elle nous prépare le chemin pour s'en sortir. La fidélité de Christ à ses promesses nous garantit une grande sécurité. Mais, je serai incomplet si je ne citerai pas 1 Jean 2, 1. Vous savez, l'apôtre Paul, en écrivant ceci à Timothée, n'est pas en train de donner un chèque en blanc à tous les chrétiens. En d'autres termes, écoutez, si vous avez besoin de pécher aujourd'hui quelque chose d'important, ce n'est pas grave. Hein? Demain, vous allez prier et Dieu vous pardonne. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, Pierre, Paul. Vous avez compris ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas de cette infidélité qu'il voulait parler. Jean l'explique très bien. Jean, après avoir dit tout ceci, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Voilà le message global de cette phrase. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Rappelez-vous de cette phrase, rappelons-nous tous de cette phrase en 2018. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on s'écroule sous le fardeau, rappelons-nous de la fidélité de Dieu. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous ne pouvons que te remercier de cette parole de l'apôtre Paul qui vient nous rappeler ta fidélité envers nous. Nous rappeler que tu es notre assurance, ton amour pour nous, ton inconstance, parce que tu ne peux renier toi-même ta fidélité pour ton amour envers nous. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce réconfort que tu nous as laissé. Mais comme le dit l'apôtre Jean, nous voulons le prendre comme un engagement de regarder quand on est dans l'épreuve, quand on est dans les problèmes, le chemin que tu as choisi pour qu'on puisse en sortir. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. Que cette parole porte de fruits dans notre cœur tout le long de cette année. Amen. Merci de votre attention. Je laisse la place à Germina.